RMC Running,
Benoît Boutron.
Salut à tous, bienvenue dans RMC Running, le podcast d'RMC destiné à tous les passionnés de la course à pied. Ouah, avec Yoann Durand, notre star de Montbazillac. Eh ouais. La légende de Montbazillac.
Exactement.
Ah ouais.
Mais Montbazillac, c'est pas du vin?
Bah si.
Exactement, il y a le vin et il y a moi. On est deux.
Je connais que le vin pour l'instant.
Vous avez déjà entendu notre invité, il est là, on reçoit Casquette verte, Alex Bouchex, qui est avec nous cette semaine à l'occasion de la sortie de son livre On m'appelle Casquette verte. Salut Alex.
Hey, salut. Est-ce qu'on peut rappeler qu'on est encore tous les trois recordman du monde? Je tiens à le faire noter. On l'est encore ou on se l'est fait sauter l'encore?
Ah non.
On est toujours recordman du monde. Ça fait bien que t'en parles. C'est bien que tu en parles parce que j'ai pas vu un mot là-dessus sur le livre. Je l'ai lu de fond en comble. J'ai pas vu une phrase sur le record du monde RMC.
Tu crois que j'avais parlé de trucs où on fait des 400 mètres à la suite?
Bah oui. Alors vous vous en doutez, on va raconter toute cette histoire, le chemin qui l'a guidé vers la course à pied, vers l'ultra, la création de ce personnage. On va parler de son actu, on va se projeter sur la suite également, et puis parler de tout ce qu'on a découvert dans le livre, parce qu'on a encore découvert des choses sur Alex, même si c'est un client régulier d'RMC Running. Je rappelle également que vous pouvez laisser des notes et des commentaires sur nos différentes plateformes de téléchargement, Apple, Spotify, Deezer, YouTube. Désormais, on est également sur YouTube. On vous remercie d'ailleurs parce qu'on réalise un mois record, et puis on vous attend sur nos réseaux sociaux. Yoann Durand est sur TikTok, je m'en remets toujours pas, mais c'est vrai. Le compte Instagram d'RMC Running, le club RMC Running sur Strava, bref, on va se régaler.
Partout.
On a un autre invité, c'est Franck Berthaud, l'homme qui fait les livres à succès de toutes les personnalités de la course à pied. Salut Franck.
Salut à tous.
C'est toi qui as coécrit ce livre avec Alex, donc je précise d'ailleurs qu'on fera gagner deux livres en fin d'épisode dans le bon plan matos, et puis j'aurai un autre bon plan matos, c'est la marque Rossignol qui sera à l'honneur avec la sortie de ce premier modèle de chaussures trail, la Vezor. On va tout vous expliquer. Alors enfilez vos baskets, attachez vos lacets, on file avec Alex au bois de Vincennes.
Moi à la base, je voulais juste faire un semi-marathon, rien de plus. Et là, c'est devenu n'importe quoi. J'ai d'abord commencé à courir, un peu, puis vraiment beaucoup. Casquette verte, à l'origine, c'était juste un délire, une manière de se cacher. Mais ça m'a échappé. Ça m'a embarqué dans un tourbillon de choses improbables. À courir des courses, à gagner certaines courses, à en rater, et même à créer des courses. Et aujourd'hui, on m'appelle Casquette verte. Alors tout ça, il fallait que je le raconte. Maman, j'ai écrit un livre. Et ce livre, je vais faire 300 km pour te l'apporter en courant.
Et voilà, ça vous plante le décor, Alex qui sort donc ce livre, on m'appelle Casquette verte. Il peut rien faire simplement comme tout le monde, Yoann, c'est fou ce mec.
C'est vrai que ça aurait été trop compliqué de faire livrer le livre ou de le porter en voiture. Non.
Ouais, c'est vrai. T'as beaucoup progressé sur les docs, je trouve, sur YouTube aussi. Les images sont fantastiques, je t'en parlais avant, mais le doc que t'as fait sur ton ultra à Shanghai, là, et tout, ton triptyque magique, là, c'était fantastique.
Ah, on bosse la prod vidéo, parce que, en fait, on essaye de produire ce qu'on aimerait voir. On essaye de faire des trucs de qualité pour pas cher, en plus. Franchement, on est très contents de ce qu'on arrive à sortir sur YouTube.
C'est particulier pour nous, Yodu, parce que je sais pas si tu te rappelles, mais Alex est un des premiers invités qu'on a reçus en 2021. Ça devait être le quatrième ou le cinquième. On a grandi avec lui et on est toujours ravis de l'accueillir comme ça, hein, Yoann.
Tous les ans, il vient nous faire un petit débriefing de sa saison. Ouais. Et donc là, il a des choses à nous raconter. Ouais.
Tous les ans, j'arrive avec 10 000 bornes en plus. Donc, voilà. J'ai des trucs forcément à
raconter. Est-ce que là, il est venu en courant? Parce qu'une fois, il était venu en courant en tenue de sport. Ah, là aussi?
Ah, là, je suis pas en courant, je suis en vélo parce que j'avais un rendez-vous avant et j'ai un rendez-vous après. Et donc là, je dois vraiment speeder et je cours pas encore aussi vite que toi. Donc, malheureusement, c'est vélo ce matin.
Ce qui est beau, c'est d'en mancher 10 000 bornes et de passer toujours le contrôle technique pour l'instant.
Pour l'instant, ça couinote depuis 7 mois.
Ça couine
parce que j'ai arrêté de dormir étant donné que je suis jeune papa.
Et voilà.
Donc ça couine parce que j'ai supprimé complètement le peu de repos que j'avais et donc pas de repos, pas de récup est égal, ça couine un peu. Mais ça va revenir. C'est en train de revenir.
On attaque sur le livre dans un instant, mais l'actu chaude, c'est donc l'éco-trail. Tu nous as encore réservé une nouvelle surprise. Tu as participé à l'éco-trail la semaine dernière. Tu trouvais l'éco-trail trop court avec ses 80 km et donc tu as inauguré un nouveau format qui sera mis en place dès l'an prochain, en 2026, le 120 km. T'as mené ça en plus de manière très discrète et tout, tu t'es régalé sur cette aventure encore.
Ouais, mais c'est trop marrant de déjà créer une course, elle est pas à mon nom, mais de créer une course.
Ah bah là, elle est totalement signée Casquette verte, bien sûr.
Mais c'est à jamais les premiers, tu vois, et en tant que parisien, ça fait plaisir de pouvoir le dire.
Oui, c'est vrai.
Donc à jamais les premiers, terminer premier de la course et dernier en même temps, ça c'est quand même cool. Et ouais, ça faisait des années où en fait, dès que j'arrivais aux 80 km, j'ai dû le faire 7 ou 8 fois le 80 bornes, je me disais, mais déjà c'est beaucoup trop court, c'est un sprint. sprint, pour moi, ça va trop vite. J'ai besoin de kilomètres en plus. Rajoutez-en moi, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Et donc là, ils m'ont déjà rajouté 40 kilomètres qui sont en plus sur un parcours qui est assez différent du 80 kilomètres.
Qui l'a dessiné, c'est toi ou c'est eux ?
Non, c'est eux avec pas ma validation et ma certification, mais je savais, c'est des gens bien, ils font pas n'importe quoi. Donc là, ils nous ont rajouté un gros bout de la forêt de Rambouillet et surtout la vallée de Chevreuse. Et là, c'est très très cool d'être dans la vallée de Chevreuse et de quelques heures plus tard d'être en bas de la Tour Eiffel. Des contemplations qui sont légèrement
et
différentes.
Et donc, on rappelle, donc, format officiel dès l'an prochain. On pourra s'inscrire sur le 120 km.
Ouais, je ne sais pas quand c'est qu'il lance les inscriptions, mais ouais, il existera. Il y aura donc un éco-trail 120.
Il y a combien de dénivelé là sur le 120 ?
Franchement, pas beaucoup. 2000.
Pas beaucoup.
2000, ouais. Ok, c'est assez roulant. Là.
Ouais, ça reste ultra roulant. Et donc, je pense que ça va être une vraie difficulté physique. Ça va être intéressant de voir qui va gagner la course, qui va réussir à performer sur un format comme ça, parce qu'il faut être capable de courir vite, mais cette fois-ci pas pendant 80, mais pendant un marathon de plus. Donc, ça va être assez passionnant.
Ah, l'éco-trail, il y a eu beaucoup de bons coureurs, hein, coureurs à pied, coureurs rapides qui ont gagné les différents formats cette année.
Je suis étonné que des marathoniens d'ailleurs débarquent pas plus vite que
pas,
ça.
Il va arriver. La mèche girondine va pas tarder. Voilà. C'est possible. Hein.
Peut-être un jour, ouais. Dans pas longtemps.
Terminer ta carrière dans le cours là.
Ouais. Voilà. Ouais. Il reste quelques beaux défis.
Mais c'est vrai que l'éco-trail, c'est parfait pour les marathoniens. C'est vraiment l'un des seuls trails qui...
Mais même, c'est une bonne étape intermédiaire. Quand tu te lances dans le trail et que tu as envie de partir dans cette aventure, c'est une bonne façon de te tester, je pense.
Ouais. Ça part fort, hein. Les mecs, à la base de 50 ans en Yvelines, là, ils tournent à 3,20 le groupe de tête à chaque fois.
Ah oui, ça part fort.
Ouais, non, mais il passe le premier semi, le ravito, il est au 23e. Il passe le premier semi à une vitesse qui n'a aucun sens. Bon, ça pète, ça fait du popcorn après, mais... Ouais. Mais ça n'a aucun sens.
Parlons donc de ce livre avec l'auteur à succès de tous ses ouvrages. On le reçoit aussi une fois par an, Franck Berthaud. Et ouais, c'est bien. Hein, un coup pour Mathieu Blanchard, un coup pour Anaïs Kemener et donc cette fois pour Casquette Verte. Une vraie spécialité, une spécificité. Tu dois te régaler, Franck, de raconter tous ces profils différents.
Hein. Carrément, c'est toujours des aventures très très chouettes. À chaque fois, c'est s'emparer d'une nouvelle histoire, d'un nouveau personnage. Et puis voilà, aussi de se départir de tout ce qu'on peut déjà savoir sur ces personnes-là tu dis auteur, moi je me considère plus comme co-auteur parce que c'est vraiment leur histoire, leur livre et c'est de se mettre à leur service pour qu'ils puissent raconter tout ce qu'ils ont à raconter dans une nouvelle dynamique parce que c'est souvent des personnes, bah, comme tu le disais, comme vous le dites, qui, pour Alexandre en tout cas, qui sont déjà passées ici, qui ont fait beaucoup de podcasts, qui ont déjà raconté leur histoire par petits bouts. Et là, le livre, c'est un autre exercice et avec souvent plus d'intime, plus de vérité. Et voilà, c'est de se mettre au service de leur histoire. Et à chaque fois, c'est très chouette. Ouais.
Pourquoi ce livre, Alex, alors ? On sait que ça faisait des années que tu avais des propositions de maisons d'édition qui voulaient raconter ton histoire. Pourquoi tu t'es lancé dans le bain cette fois-ci alors ?
Bah déjà, Casquette Verte, la base de la base, la première médiatisation de Casquette Verte, c'était 2015-2016, c'était mon blog. Moi, j'ai commencé, Casquette Verte, il a commencé par écrire, à exister en écrivant, plus qu'en courant. Donc j'écrivais mes récits de course, ça avait bien marché. Et avec le temps, je me retrouvais à plus avoir le temps justement d'écrire ces récits, parce que je mettais plus de temps à les écrire qu'à courir les courses, c'est du délire. Ouais, j'ai dû se venir, la diagonale, j'avais mis plus de 50 heures à écrire un récit, alors que je l'avais couru en 30 et des brouettes. Donc déjà il y avait ça, il y a la volonté de vouloir réécrire et il y avait la volonté de prendre, j'ai déjà beaucoup raconté plein de choses, j'ai pas tout raconté, mais donc c'était de prendre un peu plus encore le temps, l'exercice, tu vois, de l'interview rapide permet pas ça, les réseaux permettent pas ça, le podcast le permet un petit peu mais c'est pas encore assez long, l'écrit permet un champ lexical que j'arrive pas à utiliser à l'oral en tout cas, et permet une lenteur et permet d'amener les gens avec toi avec une profondeur qui leur laisse passer un message, et ça je trouvais ça cool. Donc quand Franck il a réussi à me convaincre qu'il fallait qu'on le fasse, je me suis dit de toute façon c'est maintenant ou sinon je le ferai jamais, parce que je suis de la team gros flemmard moi. Donc il a réussi à me convaincre qu'il fallait y aller, et donc là après d'ailleurs on a bien bossé, on a passé beaucoup de temps, d'ailleurs c'est pour ça que j'ai des résultats aussi minables depuis un an, c'est ta faute.
Ah oui, c'est ta faute. Franck, ouais, bien sûr.
Moi je pense que la moitié du bouquin elle a été écrite pendant mes sorties running, c'est-à-dire que j'allais chez Franck en courant, on bossait 2, 3, 4 heures et je repartais en courant chez moi Donc il y a eu beaucoup de ça. Quoi.
Mais ça c'est intéressant d'en parler avec toi, Franck, parce que chaque personnalité est différente. Nous, on connaît très bien les trois, donc Mathieu, Anaïs et Alex. C'est vrai que ce sont des personnages qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. La façon d'écrire est différente aussi ? Comment ça se passe ?
La façon d'écrire est toujours un peu différente, enfin, déjà d'un point de vue tonalité du texte, parce que, comme je disais tout à l'heure, l'idée c'est de se couler un peu dans la façon d'être et dans la façon de parler du personnage, et puis la façon de travailler l'est aussi. Avec Alex, c'est vrai qu'en l'occurrence, on avait la chance d'habiter pas trop loin, donc fallait aussi s'adapter à son mode de vie, qui est de courir le soir en rentrant du boulot. Mmh. Par chance, j'étais sur le chemin, donc effectivement il y a eu, comme il le dit, il y a eu toute une partie du travail de constitution de l'architecture du texte, parce que c'est un peu comme ça qu'on travaille. C'est d'abord beaucoup se voir, beaucoup parler, pour essayer de se dire voilà, qu'est-ce qu'on a envie de raconter, comment on va le raconter, comment on va faire en sorte que ce soit dynamique pour le lecteur, pas forcément chronologique, partir de quand il est petit jusqu'à aujourd'hui. Ouais. C'est des choses qui sont un peu plus difficiles à lire, je trouve. Donc, toute cette phase-là, effectivement, elle s'est faite en passant à la maison. Il passait à la maison avec quelques canettes et des bretzels. Et puis, on parlait de 3 heures et rentrait à Saint-Mandé. Et ça a commencé comme ça. Ouais.
Le cadre de départ, ça a été, comme tu t'en doutes, c'est bah, écoute, on fait différemment. Point.
Bah, bien sûr.
C'est,
ouais.
C'est, j'accepterai pas qu'on fasse une simple biographie chronologique, ça n'avait aucun intérêt. Et donc on a vraiment, ouais, l'ossature, elle nous a pris beaucoup de temps, parce qu'on s'est dit quels sont les messages qu'on souhaite faire passer dans le fond. Mmh. Et après, derrière, on construira. Mais quels sont les messages de fond qu'on veut faire passer ? Et ça, c'était cool, ça. Après, derrière, je vais pas dire que c'est du remplissage, parce que on a tenté d'avoir du panache littéraire dans la façon d'écrire ensuite. Et toi, de me calmer, en tout cas. D'ailleurs, j'adore quand il dit qu'il doit s'adapter un peu aux auteurs et se transformer avec chaque auteur. Donc, t'as été un petit peu Mathieu, t'as été un petit peu Anaïs, t'as été maintenant un petit peu moi. T'as l'air fatigué maintenant. Avant, avec Anaïs, t'étais souriant, avec Mathieu, t'avais peut-être un rythme de vie plus cadré. Là, ça va ? Tes proches, ils en peuvent encore peu de toi ou pas ?
Non, ça va, je tiens le coup, franchement, ça roule.
Bon, ouais, ça va. Johan, tu comprends cette volonté de se raconter aussi ? C'est vrai que vous êtes médiatisé, vous participez à de nombreux podcasts, toi aussi, c'est ton cas. Ce côté temps long et raconter une histoire, c'est quelque chose que tu comprends, toi, Lulu ?
Bah après, il faut avoir des histoires à raconter, tu vois, que ça soit Alex là, ou Anaïs, ou Mathieu, ils ont tous des histoires de dingue à raconter, parce qu'ils sont passés par des événements dans leur vie, ils ont vécu des trucs de dingue, et donc oui, et puis c'est la course à pied est au centre du truc, mais c'est pas que la course à pied, c'est toute l'histoire qu'il y a autour, c'est comment je me suis retrouvé à courir autant pour Alex, comment est-ce que ce mec là qui était un vrai parisien se retrouve à faire des trails et à borner comme un ouf. Mathieu, c'est comment ce gars-là qui s'est retrouvé à faire un peu Koh-Lanta et qu'on a commencé à voir arriver, est devenu l'un des meilleurs trailers français et se retrouve à faire des aventures de dingue en Alaska. Anaïs et son histoire qu'il y a derrière, avec ses performances dingues qui ont failli l'amener aux Jeux Olympiques. Donc ouais, il faut forcément qu'il y ait une histoire derrière ça. Et ça, c'est pas tous les coureurs qui ont ça. Et puis après, effectivement, il faut avoir la fibre. Faut être quelqu'un des réseaux, quoi. Faut avoir cette fibre-là pour écrire un livre. Il faut être capable d'intéresser les gens et d'intéresser ça avec leur histoire, ouais.
La difficulté, elle était là, parce que toi, t'es quelqu'un de très présent sur les réseaux. Tu racontes beaucoup tes courses, tes entraînements, tout ça. Donc les débriefs sont détaillés. Moi, c'est là que je t'attendais, Alex, parce que je savais beaucoup de choses de toi, mais j'avais envie d'en apprendre plus. Et le défi est réussi. Je te l'ai dit d'ailleurs en présentant le podcast, parce que on part sur des sujets qui sont différents de ce que tu peux raconter habituellement. Moi, j'ai adoré le passage sur ta famille, ta cellule familiale, la relation avec ton père qui t'emmenait un week-end comme ça dans la montagne pour aller à la pêche, la relation avec ta mère qui est différente, ta grande sœur qui était la grande sœur modèle avec des études magnifiques et tout, la pression que ça a pu te mettre et cette façon de se démarquer. On comprend mieux, c'est vraiment l'intérêt du livre, c'est qu'il y a plus de profondeur pour comprendre ta personnalité aussi.
Ouais, c'est exactement ça. En fait, le gros défaut du prisme des réseaux sur lequel je suis plus que quotidiennement. Je fais du bi-quotidien, voire du tri-quotidien, moi, sur les réseaux, tu vois. Non, le défaut des réseaux, c'est que ça donne l'impression qu'on est des extraterrestres, parce qu'on monte toujours le plus, le bas, ouais. Le truc. Et c'est donc, ça. Moi, un des enjeux, au final, on s'était pas fixé au moment de l'écriture, mais on s'en est rendu compte pendant et au moment de la relecture, je me suis fait, ok, c'est le message qui passe, c'est en fait, je ne suis pas un extraterrestre et il va falloir que les gens le comprennent. C'est-à-dire que je suis exactement comme eux. Je suis monsieur tout le monde, un chouïa plus déterminé, ça on va l'expliquer. Mais donc, mes proches le savent, c'est-à-dire que pour mes proches, je ne suis pas casquette verte l'extraterrestre.
Ouais, bien sûr.
Je suis Alexandre et ils savent qu'en fait, que tout ce que je fais est possible, qu'il y a énormément de taf, etc. Il y a de la sueur derrière, mais que c'est pas inné, c'est pas de talent, tout ça s'explique à chaque fois. Et donc c'est pour ça que le livre est intéressant, parce qu'il me permet de prendre le temps d'expliquer ça, et donc d'amener les gens à leur faire comprendre que bah oui, si c'est possible pour Alexandre, c'est peut-être aussi possible pour eux, quoi. Donc il y a cette finalité.
Et il y a des personnages fondateurs dans ton histoire, et moi je pense à Ronald, forcément, ton collègue de
c'est
travail.
Mon boss. Attention, c'est mon boss hein, maintenant.
Voilà, c'est devenu ton boss, donc cette relation est folle parce que tu l'as dit, donc tu fais une école de commerce, tu enchaînes les soirées, tu as une hygiène de vie déplorable, ça on le savait, hein, ça n'a pas trop changé. Enfin, si, t'as, au moins tu as arrêté la cigarette aujourd'hui. Cette rencontre, ou plutôt ces discussions avec Ronald à la machine à café, l'intérêt de se lancer dans la course à pied et ensuite te mener jusqu'au trail, c'est ça qui est fondateur, c'est ça qui écrit le début de ton histoire. Et c'est marrant qu'encore aujourd'hui tu aies cette relation avec lui, parce que, et tu le dis dans le livre à un moment, tu dis mais je sais pas, ça se trouve s'il avait fait de l'haltérophilie, j'aurais fait de l'haltérophilie, ça, mec, ou n'importe mec. quoi, c'est, mais des tu l'as suivi dans son délire en fait.
Des fléchettes, du bilboquet, etc. En fait, c'est ce qu'on raconte, c'est que j'étais à un moment de ma vie où j'étais entre deux eaux, c'est-à-dire la vie étudiante, la vie pro, et j'attendais d'être fauché par une nouvelle passion. Et là, il se trouve que j'ai été fauché par la passion de Ronald, mais Ronald aurait fait une passion, excusez-moi, à la con. Déjà la course à pied c'est déjà bien con, alors l'ultra encore plus, mais alors une passion à la con, ça aurait été un truc, désolé pour les fléchetteurs, mais ça aurait été les fléchettes. Aujourd'hui je serais champion de fléchettes et à la manière de Cascade Verte très certainement, parce que j'aurais développé le truc à un niveau extrême, peut-être je lancerais des flèches depuis
la Tour Eiffel. Ça c'est intéressant, et toi j'aimerais bien ton avis, parce que tu connais bien le personnage désormais. C'est, en fait c'est un point de sa personnalité, Alex, c'est qu'il va au bout des choses quand il se sent convaincu et qu'il se découvre comme ça une passion. C'est, on peut se dire c'est dingue, il se cache derrière un personnage et tout, mais non, il est fondamentalement comme ça. Tu peux pas enchaîner autant de kilomètres, autant de défi si t'es pas intimement convaincu au fond de toi, quoi, en fait.
Ouais, bien sûr, il y a ça chez lui, on le raconte à plusieurs reprises dans le livre. Je crois que dès avant la course à pied, ça fait partie de sa personnalité. Hein. À partir du moment où il s'empare d'un univers et où il se passionne pour quelque chose, il a envie de l'explorer à fond, d'en maîtriser tous les codes. Ça a été le cas pour sa vie étudiante. Tu peux kiffer faire la fête, mais t'es pas obligé d'avoir envie de devenir président du BDE et de faire des week-ends d'intégration exceptionnels et d'organiser plein de trucs. Pour avoir discuté aussi avec ses proches, notamment avec son papa, je crois que quand plus jeune, tu le disais, quand il allait à la pêche, c'était il trouvait le moyen de faire différemment, mais de pêcher avec d'autres outils, mais il voulait toujours tout comprendre, bien savoir lire l'eau. Il a cette faculté à être très opiniâtre dans ce qu'il fait et à vouloir en permanence maîtriser, explorer les univers qu'il découvre. Et quand il a découvert la course à pied, ça a été exacerbé, quoi.
Il y a une autre qualité qui ressort, c'est moi ce que j'apprécie, c'est cette sincérité, c'est que tu te caches pas derrière quelqu'un d'autre en fait. C'est-à-dire que oui, t'aimes bien être reconnu, t'aimes bien aussi avoir des commentaires, etc. Et ça c'est tout un côté que t'assumes en fait. C'est que t'es pas là à dire moi je raconte mon histoire, mais non, n'en faites pas trop et tout. Toute ta personnalité est pleinement assumée. Et ça c'est rare d'ailleurs dans les livres ou les personnes qu'on suit comme ça. Souvent tu te caches derrière ton personnage et tu t'assumes pas vraiment qui tu es. Toi t'y vas à fond, quoi. Tu dis oui, ça j'aime bien, ok, les critiques parfois je les prends mal et tout, enfin, tu assumes tout jusqu'au bout, quoi, en fait.
Ça c'est l'avantage de pas avoir à s'auto-censurer en fait. Ouais. Je pense que c'est juste parce que par définition ce que j'ai créé avec Cascade Verte, je l'ai pas lié à ma profession, et ça peut mourir demain que Alexandre va continuer à vivre. Là où il y a plein de gens malheureusement, ils sont athlètes en leur nom, et si ça disparaît, leur monde s'effondre. Moi si le monde de Cascade Verte s'effondre, demain je file sur autre chose, je vais devenir, je sais pas, pianiste, astronaute, politicien, je prends ta place,
vas-y.
me chauffe pas, parce que là je m'installe petit à petit, je commence à comprendre je vais le révolutionner cet univers.
Si tu prends ma place, je prendrai pas la tienne, rassure-toi.
Il ira pas courir 10 000 bornes,
il aura pas casquette rouge ou quoi. Non, t'inquiète pas.
Non mais attends, on va t'inscrire à la diagonale, toi t'es pas prêt. Il y a beaucoup de ça. Il y a beaucoup de ça dans ma façon d'être et c'est parce que le sans filtre et aussi un côté sans filtre, les faux humbles, je trouve ça insupportable.
Ouais, voilà, c'est ça.
Je pourrais claquer du faux humble.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que dans le milieu de l'ultra, notamment, il y a plein de... Il y a plein de routes faciles à suivre, de dire non, mais moi je m'aère la tête, je fais des courses différentes chaque année, tout ça, machin.
Je cours pour les paysages.
Je cours pour les paysages, ça aussi, ça revient plusieurs fois dans le livre. C'est ce qui te rend fou parce qu'en fait, toi, ce que t'attends, c'est la
courir.
Course. Et uniquement, c'est tu dis que toi, tu retournes toujours au même endroit parce que t'as tes repères, t'apprécies, tu peux voir comment tu peux optimiser tes temps de passage et tout. Tout ça, c'est assumé, quoi. C'est ça qui est bien, au moins, il n'y a pas de demi-mesure. C'est ça que je voulais te dire, tu vois.
Non, en fait, le truc, c'est que je suis comme ça. Je suis comme ça aussi depuis. J'ai jamais été comme ça quand j'étais plus jeune, parce que j'osais pas et que Alexandre osait pas. Mais par le biais de Cascade Verte et de ce truc-là que j'ai créé, justement, je peux être exposé à 2000% parce que c'est pas Alexandre qui va prendre direct et parce que je peux jouer de ça aussi. C'est-à-dire que ça choque parfois les gens quand on
t'as
est
t'as pas envie d'être un exemple quoi, c'est ça, t'as pas envie de dire faites comme moi machin et tout. Dans ta pratique sportive tu dis mais c'est parfois n'importe quoi, d'ailleurs on va en parler, mais t'as une relation à la douleur qui est très particulière. C'est que toi tu aimes te faire mal et ressentir que c'est dur. C'est pas des conseils que tu donnes, c'est juste ton histoire de vie que tu racontes.
Ah, c'est exactement ça, gourou n'est pas ma vocation.
Ouais, c'est ça.
Je souhaite pas être Skippy et réellement moi en fait et ça fait partie du truc, c'est Cascade Verte quand il a débarqué dans ce monde là on a eu l'impression que c'était une création de personnage pour justement attirer les regards, etc. Enfin, non juste, c'est juste mon histoire. Et parfois ça vous paraît étonnant, mais oui, moi partir courir blessé avec une cheville en vrac, c'est la réalité. Et non, c'est pas pour faire du show off, pour me faire plaindre, pour pleurnicher, pour que derrière ça se passe bien et qu'il se passe une superbe histoire, c'est parce que c'est la réalité. Et les gens voient souvent avec le prisme des raisons encore plus, mais imagine qu'on a une idée derrière la tête, imagine que tout ça est fabriqué, pensé, etc. Mais rien de tout ça n'est pensé.
Il le dit bien, Alex, à un moment, je trouve dans le livre que tout ça c'est un concours de circonstances et que en fait, et le livre en est l'exemple aussi. Il y a eu au fil de l'écriture, on s'est rendu compte qu'on il y avait cette envie de partir vraiment d'Alexandre Bouchex, quoi. C'est Alexandre Bouchex qui raconte le livre, qui raconte comment Cascade Verte est arrivé par un tourbillon de concours de circonstances, et qu'en fait, grâce à Cascade Verte a permis à Alexandre de venir greffer plein de petites choses de sa personnalité qui sommeillaient un peu en lui. Et dont tu l'as dit, dont il ne se cache pas, comme le fait d'avoir un ego, d'aimer briller, le fait d'avoir envie de se faire remarquer, parce que potentiellement dans sa famille, il avait des exemples qui étaient assez puissants de réussite.
Des parents qui ont une réussite professionnelle, sa sœur qui a fait d'excellentes études. Ouais,
Et tout ce qui sommeillait en lui, petit à petit, grâce à Cascade Verte qui est arrivée, ça lui a permis de l'exprimer différemment à travers le monde de la course à pied et de l'exacerber, quoi.
Johan, je me rappelle la première fois où on a reçu Alex, tu découvrais un peu le personnage, t'étais bluffé par le nombre de kilomètres et tout, t'as fini par t'habituer, mais est-ce que tu le suis sur les réseaux, t'es toujours bluffé par ses défis, ses kilomètres, cette façon de gérer la douleur comme on en parlait il y a quelques secondes?
Ouais, et je suis aussi bluffé par ses performances, parce que honnêtement, c'est quand même un vrai bon coureur, tu vois. C'est pas que quelqu'un qui fait des bornes et qui se prend ses pieds en photo à la fin d'une sortie de dingo. C'est, il y a de la performance aussi derrière. Il fait partie des trailers qui comptent en France aujourd'hui. Et par contre, c'est vrai que alors après, c'est parce qu'il est hors code, tu vois. Là, typiquement, à l'éco-trail, au lieu d'aller matcher avec les meilleurs sur le 80, lui il a préféré aller faire le 120 tout seul, parce qu'il est hors des sentiers battus, donc tu peux pas le catégoriser avec les mecs. Mais moi, c'est ça qui m'a le plus bluffé depuis que je l'ai rencontré, c'est de voir qu'en fait il est quand même, parce que quand on l'avait rencontré, voilà, je me suis dit ouais, c'est un personnage, tu vois, c'est un mec qui existe par ses trucs de dingue. Mais non, c'est aussi un vrai bon coureur, un vrai ultra trailer de haut niveau qui a une vraie légitimité, et c'est plus ça qui m'a bluffé avec le temps, en fait. Ouais.
Cet aspect perfectionniste, il est souvent négligé dans ta personnalité, je trouve. Tu vois, on se dit, il prend ça à la légère, il fait ça pour le show, et c'est ce qui ressort souvent, c'est les critiques qu'on te fait. Le nombre de fois où on voit des messages passer sur tes réseaux et on dit, non, mais si tu t'entraînais correctement et tout, et c'est l'un des types de messages qui te rend le plus fou.
Ça me rend dingue, ou les mecs qui me disent dommage.
Ah là là, dommage.
c'est m'énerve de fou. Ouais. Parce que en fait, je sais aussi que si je m'entraînais, si je rentrais dans le moule, si je machin, j'arrêterais de courir. Ouais. C'est pas ça.
Alors, t'as pas encore lu le livre Yodu, mais le passage de l'équipementier qui envoie un team manager rencontrer Alex et la façon dont il le reçoit, c'est assez drôle, c'est assez savoureux. Je vous laisse découvrir ce passage parce que t'étais pas fait pour
J'imagine
ça
bien.
Et tu l'as assumé pleinement. Tu dis, t'as te posé la question un moment, t'as te dit, est-ce que je fais, est-ce que je bascule, est-ce que j'arrête mon métier et je bascule à 100% dans la course à pied, ou au final, rapidement, tu t'es dit, non mais moi, ça me correspond pas, quoi.
Bah, c'est la question de se poser, de est-ce que tu deviens athlète pro. J'ai eu la proposition, donc la question s'est posée à ce moment-là. Et est-ce que... il fallait que ça soit drôle pour que j'ai envie de le faire. Et le seul truc serait été drôle si j'avais dit « Ok, on le fait, mais par contre, on va le faire à l'extrême façon athlète. » C'est-à-dire que je vais faire tout ce que vous voulez. C'est-à-dire qu'on va prendre le coach, le machin, la nutrition, je vais manger des graines, je vais dormir, je vais faire de la VMA, du truc, du fractionné. Ok, si vous voulez, on y va, mais on y va à 2000% et on regarde, on compte les points à la fin, au bout d'un an, est-ce que ça a fonctionné ou pas. Le défaut, c'est que je me connais trop. Je pense que ça m'aurait saoulé. J'aurais tout envoyé chier.
Mentalement, t'aurais souffert.
Ouais, voilà. J'aurais pas pu assumer ça, même si je pense que ce qui aurait été cool, c'est que j'aurais aimé souffrir en courant. C'est-à-dire que là, ça fait des années que je souffre plus. En fait,
à part quand t'as une douleur identifiée, mais sinon, oui. Tu te fais pas mal, quoi, entre guillemets.
Je me fais pas mal. Enfin, je suis dans un rouge qui n'est pas écarlate. Ouais. Ça fait des années que je me suis vraiment pas foutu. Mal à l'entraînement. Je me mets très mal quand je cours, oui, 30 heures, 50 heures, ça, bien sûr, mais c'est un truc que je sais gérer maintenant et que j'apprécie fortement. Ça fait des années que j'ai pas eu mal et m'être senti sous la contrainte de devoir sortir une séance. Ça m'a attiré.
Ta réflexion, elle évoluera jamais sur le coaching, l'entraînement.
J'étais ouvert, en fait, à ce moment-là, je me suis dit que vas-y.
T'as pas envie d'être encadré un peu, non?
En fait, j'ai envie d'être à 100% pour pouvoir tenter l'aventure. Et là, étant donné que c'est arrivé à un moment où j'ai commencé un petit peu à me blesser, j'ai laissé un peu ça de côté, mais c'est toujours là, c'est juste en stand-by. Ça n'a pas disparu de mon esprit, mais c'est juste en stand-by. Un Ludo Pommeray a prouvé qu'à 49 ans, on pouvait encore performer. Donc, j'ai 16 ans. Voilà. Moi, j'ai même pas commencé il y a 16 ans. Donc,
c'est sûr. L'autre fil rouge du bouquin, c'est cet amour pour la Diagonale des Fous. On pourrait se dire, Alex, son rendez-vous de l'année, c'est l'UTMB, mais non, la Réunion, c'est un vrai coup de cœur. Ça part de là, parce que c'est la première grande course pour laquelle tu t'inscris, et d'ailleurs, quand t'as le résultat, t'es comme un ouf, et tu vas tout de suite le dire à ton pote Ronald, d'ailleurs, quand tu marches, t'es en train de vibrer, et tu te dis, c'est complètement dingue ce qui m'arrive, tu te renseignes, tu consommes plein de vidéos et tout. Le fil rouge de ta carrière d'ultra-trailer, c'est la Diag. Diag, c'est un coup de cœur magnifique, quoi.
Ça, là, j'en suis. Je crois que j'ai dépassé, ça y est, les 70 000 km à pied depuis que j'ai commencé à courir. J'ai fait des courses. Ah ouais, je vais les taper, les 100 000. Hein. Vraiment, là, je commence à le voir. Ah ouais. Je sais que dans 3-4 ans, là, on est bon. Ouais.
Tu sais, Johan, à combien t'es de kilomètres? Non, tu sais pas, à peu près.
Non, mais je pense que je suis pas loin des 100 000, même dépassé, ouais.
Ah,
moi, ça fait depuis
15 ans,
2001 j'ai commencé. Hein.
Ouais,
j'ai
commencé en 2001. En 2001, donc ça fait 23 je jouais ans. Avec mon caca, je crois. Tu vois. J'ai commencé à courir à 23 ans. J'ai 23 ans de retard sur toi. La Diag, il y a ça. Et toi, j'ai eu beau avoir fait 10 ultras par an. J'en ai fait plein. La Diag, j'ai déjà fait 4 fois. Là, hier ou avant-hier, c'était le tirage au sort. J'étais inscrit au tirage au sort. J'étais tiré au sort. Ben, j'étais mais vraiment
trop content.
Mais content. Et il n'y a que avec cette course-là que j'étais que tu peux être heureux comme ça. Et toi, j'ai hésité à dire à ma copine, mais viens, c'est champagne ce soir, quoi.
Pourquoi? Pourquoi plus qu'une autre?
Ben, en fait, j'ai l'impression que celle-là, elle est vraie. Et pour ceux qui l'ont faite sur place, elle te fout une claque physique et mentale à chaque fois. Là où un UTMB, c'est très cool, hein, c'est très 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 dur d'être devant et ça va très très vite. La Diagonale, peu importe si t'es devant, au milieu, derrière, tu vas te prendre une claque totale. Et à chaque fois que tu fais la Diag, t'y vas, tu es quelqu'un, tu en rentres, tu es quelqu'un d'autre. Tu as appris des trucs sur toi, ça t'a changé, ça te fait évoluer. Donc là, j'ai hâte encore d'y être en octobre parce que j'ai envie de voir cette année quelle sauce je vais te manger, sauce réunionnaise en plus. Tu vois, une sauce un peu... j'ai hâte de ça parce que je sais qu'il va se passer quelque chose. Et dans cette vie un peu chiante, métro-boulot-dodo, cadre dynamique parisien, me prendre une claque... ma claque annuelle, ça va me faire du bien, quoi.
C'est aussi l'aspect le plus touchant du livre, je trouve, c'est la relation que tu crées avec une personne installée à La Réunion, donc c'est Franck, qui c'est dingue au départ, parce que de manière t'as pas encore percé, t'es pas encore le grand cascade verte hyper connu, mais lui te connaît, il te contacte sur les réseaux en te disant écoute, moi aussi je suis un passionné de trail, j'adore le ton que tu utilises pour raconter tes courses, moi aussi je fais du trail bah, à mon niveau amateur quoi, je peux m'occuper de toi, je vais t'aider, je t'accueille la prochaine fois que tu viens, et il s'est occupé de tout. Il y a une amitié qui s'est créée comme ça parce qu'il est lecteur de ton blog et qui va te suivre bah, jusqu'à la fin de sa vie. On l'apprendra après. Quoi.
Exactement. Mais c'est un franc-comtois qui s'est installé à La Réunion depuis quelques années. Donc c'est marrant parce qu'il a un mélange d'accent de Bzac avec Saint-Paul de La Réunion. Ouais. Donc c'est assez particulier, mais c'est très cool. C'est un oreille, comme ils disent là-bas. Mm. Et il est très présent sur l'île, très présent dans les activités associatives sportives là-bas. Il connaît tout. Il connaît tout du Grand Raid. Il connaît tout de La Réunion.
Ah, c'est un facilitateur terrible pour toi. Quoi. C'est génial.
Moi, c'est mon fixeur.
Ouais, c'est ça. Comme un fixeur de journaliste. Quoi.
Exactement.
Le fixeur, c'est celui qui vous aide lorsque vous allez, par exemple, sur une zone de guerre et qui va vous aider, vous guider sur les endroits où les personnes qu'il faut interroger.
C'est exactement ça. Et en fait, quand tu es parisien, que tu as 24-25 ans et que tu vas à La Réunion faire la diag, c'est bien, c'est une zone de guerre. Hein. C'est pas ton environnement traditionnel. Et donc, il a ce rôle-là. Il a ce rôle-là presque, tu vois, de papa local pendant une semaine, parce qu'il va m'accompagner, il va m'expliquer des trucs que je n'avais aucune idée. Je connaissais ni La Réunion ni la diag.
Ce qui est beau, c'est le temps qu'il prend pour t'aider. C'est ça qu'il faut.
Et c'est là où
sans rien te demander d'ailleurs.
Ouais, il y avait aucune volonté de sa part de rayonner par casquette verte. Il s'en foutait, ça.
Il voulait pas être cité ou quoi, ou qu'est-ce.
Loupé. Loupé. T'es dans le bouquin. Ouais. Et ce que je trouve cool dans ce sport aussi, c'est que en fait tu trouves des copains que tu saurais jamais fait. À quel moment je vais me faire un pote d'un mec qui a 50 ans, 3 enfants. Après, tu vois, c'est un mec qui m'a mis à la course à pied. C'est 50 ans, 3 enfants. Pareil, pour Franck.
Méfie-toi.
Ouais. Non, mais donc ça veut dire qu'il faut encore que je fasse deux enfants pour mettre deux, trois personnes à la course à pied. et je vieillisse un peu. Mais
cette histoire est un peu triste. On va peut-être pas la raconter entièrement parce que malheureusement il nous a quittés aujourd'hui. Donc vous découvrirez comment en lisant le bouquin.
Exactement.
C'est très touchant parce que vous gardez une relation très forte. Toi, la manière dont tu l'apprends, c'est particulier parce que tu le vois une dernière fois sur l'Ultra 01, je crois.
Exactement.
Il a cette phrase mythique où il te dit toujours allez, vas-y, mon grand. Et toi, ça te reste en tête à chaque fois sur toutes les courses. Ouais. Et ouais, c'est pour moi, c'est peut-être le plus fort du bouquin, c'est cette relation que tu as avec lui, tu vois. Il s'est passé beaucoup de choses, il y a d'autres choses à raconter, mais ce truc-là, c'est vraiment casquette verte, c'est ton histoire. Quoi.
Bah non, mais là, c'est justement Alexandre qui craquait ou toute casquette verte. Ouais. Et tu vois, en fait, il y a des moments, c'est facile d'être casquette verte, c'est même beaucoup plus facile d'être casquette verte qu'Alexandre là-dessus, parce que là, je sors en faisant une blague, une machin, une pirouette, je suis Belmondo, et allez ouais. C'est la première fois que j'ai mis de Belmondo, tu vois. Alors que tu vois, là, je suis en train de planquer l'émotion que j'ai en parler, parce que derrière, Alexandre, il est forcément très touché par ça, voilà, je suis trop touché.
Franck essaye de prendre le relais, quoi. C'est le passage le plus touchant du livre, c'est sûr.
Bah c'est une histoire touchante, mais qui dit aussi, je trouve, quelque chose de la personnalité d'Alexandre pour le coup, sur non seulement La Réunion, mais sa faculté à toujours refaire les mêmes courses. Que ce soit la Diag, que ce soit l'Ultra 01, t'en parlais. Il y a l'Ultra Trail des montagnes du Jura, il y a le Coulamanen maintenant en Suède. Et en fait, Alexandre, c'est quelqu'un de très routinier, qui aime être dans la routine, enfin, il dira le contraire, mais avoir vraiment dans son univers, pouvoir identifier des choses qu'il va pouvoir revivre. Et ces choses-là, à chaque fois, de retourner sur les mêmes endroits, ça lui permet justement de découvrir des nouvelles nuances, d'en apprendre davantage sur les endroits et de développer potentiellement ce type de relation qu'il développe avec Franck. Mmh. Et en fait, c'est le fait de revenir et de s'identifier à un endroit, de revenir en permanence, d'être dans cette routine qui lui permet d'avoir autant de rencontres, autant d'histoires à raconter et de vivre aussi intensément les différentes courses auxquelles il est associé et sur lesquelles il aime revenir. Quoi. Et ça, ce côté routinier, qui est pas dit de manière péjorative, mais
non,
au contraire, ça fait partie de lui, quoi.
Et toi, tu parles de routine. Moi, j'utiliserais maintenant presque le mot fidélité. Et
toi,
c'est fidélité aussi bien à des personnes qu'à des courses, qu'à des environnements. C'est-à-dire que toi, j'étais aussi fidèle à Franck à La Réunion que je suis fidèle aux 20-25 km quotidiens et aux mêmes bars que je vais croiser, aux mêmes gens que je vais croiser dans Paris, aux mêmes feux rouges que je connais par cœur. J'ai une fidélité à tout ça et c'est pas une... voilà, c'est... Dans routine, ça peut rapidement basculer dans le fait d'être lassé. Fidélité, en fait, ce qui est intéressant, c'est de la garder, quoi, cette fidélité. Putain, on continue la psychanalyse là. Non mais attends, je me suis fait payer une psychanalyse par Flammarion.
C'est sûr. Non mais je veux pas rajouter une pièce, mais quand tu retournes sur la Diag, la première personne à qui tu penses quand t'atterris à La Réunion, c'est forcément lui. Ouais, c'est sûr.
Mais c'est ça. Et tu vois, c'est bizarre de le dire comme ça, mais il a été répandu à un endroit à La Réunion où je sais très bien que quand je vais aller chercher mon dossard entre Saint-Denis et Saint-Pierre, je vais voir l'arbre où il m'avait dit que le jour où il disparaîtrait, il aimerait bien qu'on mette ses cendres. Donc oui, je vais y penser à chaque fois. Et à chaque fois que je sais que là, en octobre, quand ça va être dur et que je vais rentrer dans ma fac, je vais entendre le Allez, mon grand. Et je sais pas si je serai en train d'essayer de chercher la 10e place à la 20e ou la 100e, mais je vais courir avec lui. J'aime pas trop courir pour, j'ai du mal parce que moi j'ai toujours couru pour moi, je suis quelqu'un de très indépendant, mais le cœur va courir avec quelqu'un, quoi.
Parce que le top 10 c'était l'objectif sportif annoncé dès le début de ta carrière de trailer, même très amateur, hein. T'avais dit à tes potes, écoutez, moi dès que je fais top 10 à la Diag, c'est bon, j'arrête. Tu l'as fait, t'as pas arrêté.
Parce que... moi j'avais pas dit quand.
parce que t'es piqué, mais c'est... L'enjeu sportif est arrivé, mais ça te donne quand même envie de continuer. Et c'est peut-être intéressant de parler de ça. C'est l'autre aspect de Casquette Verte, ce sont ces fameux off, les défis que tu te lances. Ouais. C'est ce dont parlait Yodio aussi. C'est ce qui le fascine quand on te voit faire le tour des Maréchaux sur Paris, qui fait tout le tour de Paris comme ça. On se dit, oh, c'est dingue quand tu fais Paris-Plage, quand tu fais l'opération Schengen, les escaliers de Montmartre.
Bah, ce bouquin, on a fait un autre off encore. Hein. Ce bouquin, je suis allé chercher à l'imprimerie.
Tu le racontes.
Je l'ai apporté en courant à ma mère.
Et t'as souffert d'ailleurs.
Ah, mais j'ai douillé.
300 bornes.
En fait, on a dit, les petits trucs, on arrête. Départemental, tout droit, faut longer la nationale avec les bagnoles, on s'en fout, c'est plus rapide. On gagne quoi, 300 mètres, on gagne, allez.
Mais tu vois, ce que j'aime dans ta sincérité, c'est que tu lances le défi fou, mais tu racontes très bien qu'il y a beaucoup de moments où t'en as ras-le-bol. Tu racontes que Paris-Plage, t'arrives, t'es même pas content.
Paris-Plage, j'étais
t'en
pas
content. T'en as ras-le-bol et t'as qu'une envie, c'est de rentrer chez toi.
Je vais rentrer chez moi et nourrir le chat.
C'est mon
seul truc intéressant, alors que je venais juste de courir de Paris jusqu'à la mer. Et on pourrait croire
ce besoin de off, c'est encore un autre aspect de ta personnalité. C'est essentiel dans ton histoire et ta relation avec le sport.
Je pense que c'est très lié à mon relation avec la course à pied, parce que pour Godwin, la course à pied, Forrest Gump, ce Forrest Gump qui dit, tu vois, là, lui c'est peut-être mon gourou, mais qui dit puisque j'étais déjà allé aussi loin, pourquoi pas continuer. Moi j'en suis là, et pourquoi j'ai pas arrêté au moment de la Diag, et j'ai baissé mon pantalon à ce moment-là en continuant la course à pied, même si on court pas en pantalon sur la Diag. Parce que je suis convaincu qu'il y a encore plein de choses à faire et des trucs bien marrants à faire. Donc vu que je suis convaincu de ça, je continue, quoi. Et là, retourner sur la Diag cette année, je sais pas. Je sais pas si je me lance un défi sportif de améliorer mon classement, mon temps, ou le faire avec ma fiancée, ou le vivre un petit peu autrement, tenter de le filmer à l'intérieur, je sais pas encore.
Et comment tu le décides, ça ?
Je pense que malheureusement, j'ai un vice au fond de moi qui est que je pars souvent d'une phrase, et de cette phrase me donne une envie pour la course à pied. Quand j'étais avec Cathy Scheid pendant la dernière édition, on s'est dit un truc avant de partir. On a dit on aimerait bien ne pas courir le samedi. Et en fait, il faudrait faire 26h59.
Il ne manquait pas grand-chose d'ailleurs.
1 minute 23.
Voilà, c'est ça.
Sur 27 heures.
C'est le temps de ton 400 mètres au record du monde. Tu vois, c'est pas grand-chose.
Non, je rigole. Ouais, attends, j'étais un peu moins, non ?
Ouais, t'as souffert quand même. Hein. On t'a pas reconnu. On avait honte par rapport à l'équipe qu'on avait choisie pour courir avec toi. On avait dit on ramène un champion. Bon, c'est pas
c'était des zigotos quand même. Hein. C'était des zigotos.
Non, mais c'est un message d'ailleurs que je voulais te faire passer, parce que donc vous le savez, on a organisé un grand record du monde de 24 heures. On a fait venir 24 personnalités. On a loué le stade Charletti pendant toute cette durée. Alex m'avait confirmé sa présence. Je l'ai mis à un horaire que lui seul pouvait
très accepter.
Très tôt
le matin.
7 heures du mat.
Ou tard le soir.
Bah non, c'était encore plus tôt, non ?
Non, c'était 7 heures du mat. Je crois que t'étais, ou 6 heures du mat.
Ouais, il fallait arriver encore plus tôt.
L'un ou l'autre. Tu te retrouves avec une équipe de Barjot, mais ça s'est pas fait exprès parce qu'on les connaît pas, donc vous avez tout de suite une osmose et une entente. Et il y a pas mal de mecs dans ton équipe qui apprécié ta personnalité, mais qui avait cette question de se dire, ouais, est-ce qu'il joue un rôle ou quoi. Et ce qui a fasciné tout le monde, c'est que t'es l'un des seuls à être resté jusqu'au bout.
Avec la bière sur le, au couloir 2.
Avec la bière, à encourager tout le monde et tout. Et là, ouais. Ils se sont dit, non, mais en fait, il est vraiment Jojo, quoi. À te moquer de la ministre des Sports, tout ça, quoi. C'était.
T'es resté jusqu'au bout. Amélie, quoi. À l'époque, ça c'était formidable. Il y a une séquence qui est incroyable, je la raconterai pas, mais il y a une séquence incroyable.
L'échauffement d'Amélie Oudéa Castéra.
Ça, c'est. Non, mais surtout, attends, dans notre équipe, il y avait donc un arbitre de Ligue 1.
Oui, arbitre de
Je rappelle, on lui a fait faire un tour en pas chassé.
Pour tout vous dire, nous on arrive au stade Charletier avec Johan et on le voit, le gars.
Et c'est ça. C'est pas on voit chassé. Ce moment-là.
On dit, mais qu'est-ce
là, on
qu'il
dit,
fait là.
Alors,
dit,
le record du monde est parti en cacahuète.
C'est fou. Ouais, parce qu'il ne fallait pas faire tomber le témoin en plus. Ouais, ouais. Nous on s'était entraîné à faire des passes de rugby avec. Enfin, ça n'avait aucun sens. Mais c'est ça qui est bon en fait dans la course à pied, dans la légèreté de la course à pied, c'est que ce n'est que de la course à pied et que. Même si on fait des trucs qui paraissent très sérieux, etc., top 10, top 20, UTMB, etc., il faut faire truc. Si t'arrives et que tu le fais en te marrant, putain, c'est encore plus drôle, quoi. Ouais, ça a toujours été ça. Ce truc-là. C'est sympa de faire les jeux vidéo, d'aller jusqu'au bout, etc., en tenant la manette avec ses deux mains. Mais moi, ce que j'ai préféré, c'est peut-être mettre le mode expert et tenter de le faire avec une seule main, quoi.
Et ça m'a fait penser à Johan, ce que t'as expliqué d'ailleurs dans le livre, c'est que tu dis je me retrouve à faire un podcast Ultra Talk, d'ailleurs, sur une fin d'année. Et le présentateur te fait prendre conscience que tu as gagné quoi 6 courses sur 12 disputées ou un peu plus quoi.
Sur les 10 derniers mois, j'ai pris le départ de 8 courses et j'en ai gagné 6 voilà, là, en battant deux fois le record de l'épreuve. Et
exactement. Tu fais
ah ben oui, en fait, je m'en rendais même plus compte de ça quoi.
C'est ça. Alors, et moi, c'est la question que je voulais poser à Johan parce que Johan, c'est un peu ton cas aussi. Ça t'arrive de faire des courses comme ça près de chez toi ou quoi, et souvent tu gagnes, tu peux gagner, tu as gagné les championnats de France de cross, tu as gagné les championnats de France de semi-marathon et tout. Et ouais. Aussi de participer à des grandes courses d'envergure. Là, pas forcément aller chercher le podium, mais aller chercher une grande perf. Et je voulais vous demander à tous les deux votre rapport à la performance sportive. Et le sentiment de victoire, parce que c'est particulier. Moi, je me souviens de ta tête, Johan, quand tu gagnes les championnats de France de cross. Je te sens libéré et heureux comme un gamin, quoi. C'est marrant, alors que tu as 20 ans de course à pied de haut niveau dans ta vie, quoi. Tu vois, c'est ça qui est fou.
Après le France de cross, c'est un événement particulier parce que le cross, c'est quelque chose que j'ai toujours fait depuis tout petit. Et c'était, je ne l'avais jamais gagné, si tu veux. J'avais gagné, j'avais toujours fait 2, 3, 4, 5. J'étais toujours passé à côté. Et là, le fait de le gagner, même si c'était dans la catégorie des masters, malgré tout, c'était une fierté, tu vois. Mais effectivement, c'est vrai que des fois, tu kiffes juste et puis tu gagnes. Moi, j'ai pas. Tu vois, si j'avais
t'as le
choix.
T'as le plaisir de gagner une course ou pas forcément enfin, c'est
pas forcément,
à ligne premier,
tu vois. Si tu me proposes de gagner un marathon en 2h11, je sais pas, au marathon de Rouen. Ou de faire 2h09 mais 50e au marathon de Valence, bah moi mon côté performance il te dira que je préfère faire 2h09 à Valence, tu vois.
Ouais,
mais
aussi.
Ça c'est personnel.
Non mais toi c'est marrant de parler de ça entre lever les bras le premier etc ou aller chercher une perf je te dis une connerie mais un top 8 à l'UTMB tu vois.
Pourquoi 8
ouais,
c'est bizarre.
Je sais pas.
Moi, je suis bon comme ça. Il y a eu un truc déjà. Il y a eu l'accueil de casquettes vertes dans ce monde-là. Ça a été très souvent, à l'époque, c'était un sport de montagnard. Et ça a été, écoute, gentil petit parisien.
Citadin montagnard. Ouais,
laisse la montagne au grand, quoi.
Ouais.
Et donc, c'était pas une volonté de vouloir fermer des bouches. Quand tu sais que tu cales deux UTMB entiers avec le parcours complet en moins de 23 heures, que tu rentres dans le top 20, que quand tu fais top 10 à la Diag, t'es content pour toi, mais t'es aussi content de pas fermer des bouches, mais de leur apprendre qu'il est possible de le faire. Et donc ça, j'en étais, ça a été un marqueur.
Tu l'as encore ce sentiment?
Moins, parce que je sais à quel point c'est dur de faire ça sur l'UTMB, sur la Diag. Mais
le regard du plateau.
Il y a plus des Parisiens sur trail bientôt.
Ouais, c'est vrai.
Ouais, c'est pas faux. Pas devant. Hein.
Est-ce que le regard des élites a évolué sur toi aussi?
Oui et non, parce que chaque année c'est remis en question, mais si, oui, j'ai envie de dire. Après, les mecs élites, quand tu cours avec eux et que tu te retrouves toi à la même galère, ils savent à quel point c'est dur, et donc oui, d'une certaine manière, c'est pas que le petit rigolo des réseaux là. Donc il y a ça, et gagner les courses, moi j'ai un gros vice, exactement comme la clope ou l'alcool, etc. Je déteste l'avoir ce vice là, mais j'aime bien. J'aime bien de temps en temps quand il y a un tout petit peu de compète. Et j'aime bien gagner des courses aussi pour ça, parce que bah, c'est un moment où je me retrouve, bah, toi je l'ai déjà exprimé comme ça, mais c'est le mec avec qui je suis, ou qui est deuxième, ou qui est premier que je dois rattraper, bah, c'est ma biche et moi je suis le chasseur. Mmh. Et j'aime bien, tu vois, c'est pas de la mise à mort.
Ça t'est arrivé sur la Lyon-Saint-Élion, quand un mec avait annoncé qu'il venait pour te battre, d'ailleurs. Exactement. Tu avais gagné deux éditions précédentes.
Ça m'est arrivé sur la Lyon-Saint-Élion, sur l'Ultra 01 là, récemment, et bah, j'aime bien, allez, ok, d'accord, là, il va rester 20 bornes, bah, il faut que je fasse mon meilleur semi de toute la course, même si je viens d'en courir 140, parce qu'il faut que j'aille rattraper un mec qui est un quart d'heure devant, et va le chercher. Et j'adore ce moment de transe absolue dans lequel je vais rentrer, où là, je suis pas Alexandre, je suis pas casquette, je suis un animal, quoi. Ouais. Et ça, c'est un truc qui me plaît bien, qui malheureusement me plaît bien. Je pense que c'est du vice animal pur et dur. C'est dans les gènes, ça, tu vois.
Bah, c'est la baston du cross que Johan adore aussi. C'est ça aussi que t'aimes, Yodu, dans
le
cross.
Ouais, c'est ça, ouais. C'est aller chercher le mec devant, aller faire mal à l'autre. C'est vrai que t'as un peu ça quand même, malgré tout. Ouais. Enfin, quand t'as une compétition à la place, tu vois, et que c'est pas simplement le chrono qui compte, ouais.
La paternité, ça a changé quelque chose au-delà de la fatigue accumulée,
c'est le sommeil,
sur la sur la vision globale de toi, de ton avenir aussi, parce qu'on a parlé de ça, la façon dont tu voyais la suite. Est-ce que tu bascules 100% dans la course à pied ou pas, est-ce que ça fait prendre conscience des choses, ou tu l'as pas ressenti comme ça? Les risques que tu peux prendre en Atacama, on en avait déjà parlé, mais on pourra en reparler aussi d'ailleurs.
Ouais, ben je pense que le truc le plus important, il est là. Il y a des choses que j'ai fait que je ferai plus, et c'est Kylian qui avait parlé de ça en fait, sans vouloir, alors qu'il n'était pas encore papa, et il se retrouve dans un couloir dans l'Everest et ça se passe mal. Il y a une avalanche et il est avec Jordi Gamito, je crois, et deux autres personnes. Et c'est Kylian qui va passer en premier parce que c'est le seul qui a pas d'enfant. Et ça m'avait marqué. Et effectivement, donc si on fait du reverse engineering, on se dit ok, d'accord, bah, c'est la conscience d'être papa et de plus être tout seul maintenant, et il y a une responsabilité qui est de fait. Là-dessus, je sais qu'il y a des trucs que je vais passer beaucoup plus prudemment, où je vais plus aller m'amuser à désescalader des falaises au milieu de la nuit avec mon pote Loïc juste pour le délire de traverser la montagne.
Oui. Ce qui est un grand moment de peur que tu racontes très bien dans le livre aussi.
Je me suis senti crevé réellement.
Cailloux qui glisse sous tes pieds, quoi. Et la falaise, tu vois une flasque tomber à une vitesse folle et tu te dis ça peut être moi, quoi.
Et c'est ton pote qui te retient avec une corde qu'il a trouvée 20 minutes plus tôt. Et tu dis, si le mec ne me tient pas, c'est fini, quoi, pour moi, et potentiellement aussi pour lui, parce que je vais l'amener. Ça, je ne referai plus. Tu vois, la paternité, de manière très fondamentale, elle m'a appris à un peu mieux mesurer les risques, parce que j'ai conscience, et tu vois, des mecs comme Franck et son décès me l'ont appris, c'est qu'on n'est pas éternel et ça peut s'arrêter à tout moment. Putain, il va falloir kiffer la vie encore plus fort. C'est-à-dire que jusqu'à présent, je suis resté soft des mecs. J'étais à 10 courses par an, on va passer à 20 courses par an. Non. Ça, et bien sûr, la volonté aussi de se dire, la course est quand même un truc ultra solitaire. En tout cas, quand tu cours 3 heures par jour, c'est très, très solitaire. Donc tu gâches, on ne sait pas, mais tu utilises du temps que tu ne peux pas utiliser pour ta famille, et donc il y a une idée de aussi comment j'optimise encore plus pour pouvoir continuer cette passion que j'adore et que je vais continuer à faire, tout en n'altérant pas la relation que tu as avec mon fils, quoi, et avec ma fiancée. Donc ça, c'est intéressant, on est en train de retrouver un équilibre là. Ça fait 7 mois, c'est un petit peu plus, 7 mois et demi, on est en train de retrouver un équilibre.
Ça y est, ça dort.
Presque. Mais non, ça me dérange pas, je fractionne la nuit en fait. Moi, je fais des demi-siestes, des doubles demi-siestes, mais on est en train de trouver un autre rythme qui me permet de recommencer à progresser, alors que les premiers mois étaient un petit peu difficiles. Et en revanche, je suis pas sûr de pouvoir refaire, en ayant un job comme je continue à l'avoir, en ayant toute la vie de casquette verte à gérer, je suis pas sûr de pouvoir rebasculer sur du 20-25 heures par semaine sans tout gâcher à côté. Donc non, vu que je veux pas tout gâcher, je vais essayer de courir un chouïa moins, ce que je fais, mais par contre la minute de course à pied maintenant, elle est optimisée.
Il y a que ça.
Je recours un petit peu plus vite parce que j'ai envie d'avoir des sensations, j'ai envie de me ressentir mieux, de me réentraîner, etc. Donc je remets un petit peu d'intensité. Là où j'avais enlevé l'intensité, j'avais juste mis du volume, je remets de l'intensité pour baisser un petit peu le volume. Ouais. Donc c'est
là, quoi.
Ouais, on est en train de checker un peu les curseurs pour réussir à peu près à atteindre le même résultat en faisant un petit peu moins, quoi. C'est Steve Jobs qui disait ça. Il adorait embaucher des mecs qui avaient la flemme ou des gros flemmards comme moi, parce que on arrive à optimiser pour pouvoir se trouver du temps de manière assez fondamentale.
La relation que tu as avec ton personnage casquette verte, est-ce que c'est toujours beau fixe? Parfois, ça t'a aidé à surmonter des épreuves. Je pense à une épreuve sentimentale avant Noël, il y a quelques années. Ouais. Là, ça t'a bien servi. Il y a des moments où tu en as eu marre du personnage?
Non, c'est rare que je me dise il est relou ce casquette et ce que ça engendre c'est relou. J'ai tendance à bien kiffer ce que j'ai créé. Quoi. Ouais. Vraiment, ça c'est mon côté égo, tu vois. Bon là, c'est quoi? C'est le point 3 égo de la journée. Non, j'ai tendance à me dire en fait, ça me fait encore rire et que ça me fasse marrer, etc. C'est très bon signe. Donc tout le monde après part pas dans mon délire, y a pas de souci. Mais casquette et Alexandre s'entendent bien. Alexandre qui avait envie de tuer casquette à un moment a décidé finalement de le laisser vivre. J'avais envie peut-être d'une fin à la Daft Punk, que justement, la beauté de Casquette, c'était de faire exploser Casquette en vol à un moment, partir comme un prince et redevenir.
Tu y as pensé ça à la fin du personnage?
Ouais, j'y ai pensé. Avant Top 10 Diag, etc., j'y avais pensé en me disant, si j'y arrive pas, je vais tout péter. C'est la stratégie de la terre brûlée. Voilà. Ouais. Mais je trouvais qu'il y avait un côté panache. Et finalement, en fait, je me rends compte de tout ce que je peux encore faire d'amusant avec ce truc-là. Ça fait un an et demi qu'on est en train d'explorer le YouTube game. À quel moment, tu sais qu'il y a des mecs maintenant dans la rue, je suis habitué aux selfies, je suis habitué au grâce à toi je fais du trail,
aux casquettes, le coup de klaxon, le truc,
ouais grave, mais ouais. Tout le temps je suis habitué à ça, ouais. Là se rajouter depuis peu des mecs qui me disent c'est pas bravo pour ta dernière course, c'est bravo pour ta dernière vidéo.
Ce que j'ai dit moi,
je suis youtubeur, ouais. Quoi,
est-ce que je lui ai dit, t'as vu, c'est ce que je lui ai dit en
vrai, c'est vrai.
Je suis youtubeur, je suis plus coureur, quoi, en fait.
On peut y aller parce qu'il le dira peut-être pas comme ça, mais l'importance de sa compagne dans son évolution aussi, est-ce que tu peux en parler? Tu t'es entretenu avec elle?
Ouais, bien sûr.
Elle est aussi dans le même délire, on le précise, c'est elle qui l'a accompagnée en attaque dans des moments compliqués.
Exactement.
C'est un pilier de sa vie, quoi, désormais.
Je pense que c'est évidemment un pilier de sa vie. Et je pense que ce qu'Alexandre a trouvé là, c'est important pour lui, tout simplement dans le sens où c'est quelqu'un qu'on le voit de passionné par ce qu'il fait, et de trouver quelqu'un qui est passionné par la même chose, avec qui on fonde une famille et avec qui forcément les discussions sur l'organisation, les courses et cette passion partagée va permettre d'évoluer sainement dans la sphère familiale sans qu'il y ait de culpabilité puisqu'il kiffe les mêmes choses. C'est super important et je pense que cette rencontre est importante pour lui. Mais ce que je voulais dire aussi par rapport à ce que tu lui demandais sur Casquette Verte, c'est que c'est difficile quand même de pas aimer ce personnage qu'il a créé. Je me mets à sa place parce qu'il faut voir à quel point il donne envie aux gens de courir.
Moi, je sais,
on parlait des vidéos YouTube. Je l'ai accompagné un peu sur un de ses derniers off pour le livre. Il y a des gens tout le temps, il y a des gens partout, il y a des enfants avec des pancartes, il y a des ravitaux sauvages sur le tracé pour l'encourager, des gens qui lui disent continuellement à quel point... il l'inspire, à quel point ils lui ont donné envie de courir, etc. Donc ça, quand on crée quelque chose comme ça et qu'on voit en tant que personne qui aime courir comme lui aime courir, à quel point on partage cette passion avec les gens, c'est important. Et pour boucler ta question, il la partage aussi avec sa compagne énormément. Donc c'est super positif, ouais.
L'aspect organisateur, c'est la suite logique aussi. Tu fais déjà l'ultra trail de Montmartre, hein.
Ouais, de manière très légale.
Non, mais c'est totalement à ton image, hein. Nous, on a eu la chance de le raconter, ça a cartonné d'ailleurs, avec de belles histoires de vie.
Génial, votre épisode avec Flo d'ailleurs.
Ah non, mais Flo,
j'adorais.
Flo, un personnage. Tu te rappelles Yodu qui monte les escaliers de chez lui
14 mars. 14 mars, il faisait 1000 mètres de dénivelé tous les soirs chez lui.
Mais quelle horreur. Qui avait déjà fait le tour de sa caserne, je sais plus combien de fois en 24 heures. Bref, t'as trouvé un copain.
C'est un beau pote, ouais.
C'est ça. Tu la vois comme ça la suite, tu vas continuer de courir forcément, mais tu as envie de tes projets dans lesquels tu t'envisages, c'est plus de la création de courses, d'événements comme ça, c'est quelque chose qui te plaît?
Mais en fait, tant que je peux courir, je vais courir, et donc ça prend beaucoup de temps. Après, j'aime bien aussi créer par l'exemple, c'est-à-dire que en montrant que c'est possible pour moi, c'est peut-être possible aussi pour les autres, et donc j'ouvre la voie, suivez derrière les mecs. Donc il y a de ça, et je trouve que je suis très inspiré par ce que fait Nils Arend avec le TSP, le Split Project, donc le truc que j'ai fait dans le désert d'Atacama. Ouais. Que en ce moment, il y a le LALV, Los Angeles Las Vegas, qui est en train de se faire. Il en a créé un autre en France entre Chamonix et Marseille. À Berlin en boîte de nuit que j'ai fait l'été dernier. Donc j'aime bien aussi à participer aux trucs des autres quand les autres font des trucs stylés. Et ouais. donc ça m'intéresse aussi de, par ma présence, moi kiffer et peut-être. Mais, allez, tiens.
Donner de la force, valider quelque chose.
Ouais, je vais te carrer parce que effectivement, c'est bien ce que tu as fait. Et maintenant, on va utiliser un peu casquette verte pour mettre en lumière les bonnes initiatives qui ne sont pas créées que par moi-même. Tu vois,
tu prends tout ce que disait Franck, les encouragements, les merci, les je me mets à la course grâce à toi, je prépare de l'ultra en ville parce que j'ai vu que c'était possible grâce à toi, ou est-ce que tu te protèges un peu et tu restes concentré sur toi ? Parce que c'est un risque aussi, on peut se perdre et se... Tu vois, quand on reçoit beaucoup trop d'éloges et tout, on est un peu moins concentré sur ce qu'on fait, peut-être.
Ouais, on me crache aussi un peu à la gueule, donc ça va, ça équilibre.
Dans la proportion,
Oui, en fait, qu'on te dise tout le temps, c'est t'es bien, t'es beau, t'es magnifique, t'as changé ma vie. J'ai eu des gens, mais vraiment, plusieurs fois, qui se sont effondrés en larmes dans mes bras en me disant à quel point j'avais changé leur life.
Et comment tu le vis, alors ?
Et ça, en fait, là, c'est plus casquette, tu vois, genre, t'es pareil, comme avec Franck, t'es obligé de redevenir Alexandre, était dans l'empathie humaine et l'émotion parce que t'as un cœur. Ça me dérange pas. J'ai envie de continuer. Je trouve que ça fait du bien aux gens, donc j'ai envie de continuer à péter des murs pour que les gens puissent passer. Grâce à ma compagne, grâce à ma fiancée, Charlotte, on va la citer. En fait, Charlotte aussi, elle me permet quand je rentre à la maison de. Non mais attends, t'es bien mignon là, les machins, les merci, les trucs. Arrêtez, parce qu'après ils sont plus pétés. Et donc elle me remet bien, tu vois, elle me remet bien à ma place directement le soir en rentrant. Moi, je suis quelqu'un qui vit en déséquilibre. C'est-à-dire, je suis tout le temps en train de tomber et je me rattrape en courant. C'est comme ça que j'avance dans la vie. Elle fait partie de ces trucs qui me permettent de pas tomber et de m'aider à continuer d'être la position Michael Jackson, d'être comme ça en avançant dans la vie voilà, en fait, avoir des proches qui te parlent vrai, qui sont pas ta cour comme le roi soleil, ça fait énormément de bien. Quand Franck il me fracasse en me disant non, là tu dis de la merde, tu fais de la merde, c'est peut-être un peu trop là, tu vois, tu vas peut-être un peu fort, tu vois. Typiquement dans le bouquin il y a pas mal de choses où à la relecture, on s'est dit, ok, on va l'adresser autrement, ce message, parce que ça peut être blessé. Et tiens, d'ailleurs, je tiens à le dire, c'est la personne qui me fait mon assistante, Cécile.
Oui.
En fait, je me suis pas rendu compte que dans le bouquin, la façon dont je le formulais était un peu dure et cruelle. Et si on ne connaît pas notre relation père-fils.
Alors moi, je l'ai pas ressenti comme ça parce que je connais l'histoire.
Ouais, voilà.
Mais t'as raison. Quand on découvre le livre ou ton histoire, on se dit, ouais, c'est un peu raide. Il parle juste de son sac de marque et qu'elle est là à sortir les trucs et tout. Il y a pas trop de remerciements, quoi. Ouais.
Grave, et donc c'est là où Franck n'a pas fait assez son taf.
Et voilà.
De me dire, il fallait mettre des merci, mais moi je suis pas quelqu'un qui dit merci, donc c'est compliqué aussi. Continuer à venir me voir dans la rue, moi il n'y a rien que j'apprécie de plus qu'un mec qui me stoppe et qui me dit, ok, juste j'aimerais bien avoir une petite photo, un petit truc, une vidéo pour ma daronne. Vraiment, il n'y a pas de souci, je fais des mariages aussi. Non,
ta prochaine étape personnelle. Le mariage.
On l'a exactement.
Voilà. Bon, ça c'est une bonne nouvelle. Et puis dernière question avant de passer au bon plan. Quand le livre sort, il est en physique là comme ça. Tu l'as dans les mains. Première personne à qui tu penses pour l'offrir, c'est qui ? C'est ta mère forcément, parce que tu vas lui emmener.
Je l'ai amené à ma maman. Ma maman, c'est la personne qui m'a appris à écrire, à lire, un machin, qui m'a soutenu dans toute mon éducation quand les profs me disaient que j'étais pas bon. Elle a cravaché. Elle a fait du volume sur moi. Mais vraiment, vous vous rendez pas compte. Hein. Moi, tous les samedis après-midi, c'était gâché. Gâché. Non, mais c'était 13h30, 18h, 19h, 20h, je bossais avec ma mère pour pouvoir rattraper les autres ou pour pouvoir être un peu meilleur que les autres. Donc ouais, bien sûr, maman en direct.
Et comment elle l'a vécu quand elle a eu le livre de son fils entre les mains ?
Quand elle l'a vu arriver après 350 bornes, plutôt.
Qui pue la transpiration, évidemment. Ouais.
Non, parce que les sacs sont bien étanches maintenant. Ouais. J'avais un peu peur que le bouquin arrive dans un état pourrave, sachant qu'on a eu des conditions météo exécrables. Ouais. On a eu de la neige, de la flotte, on a tout eu. Ma mère est quelqu'un qui garde les émotions très internes, et donc nous on le sait, c'est-à-dire que moi je le voyais qu'elle avait une forte émotion, etc.
Tu le sais, quoi. Ouais.
Mais pour elle, si tu veux que son fils fasse 300 bandes pour amener le livre, elle est habituée à ce que je fasse des trucs comme ça. Donc,
non, mais c'est plus le livre, l'aboutissement du livre dont je te parlais, tu vois.
L'objet en soi, moi j'en suis très fier, parce que ça y est, j'ai enfin réussi à sortir ce truc là où quand on va me dire que je suis un extraterrestre, je vais dire hop. Tu vas aux éditions Flammarion, tu leur demandes le livre, tu le lis et tu viens me redire ça. Tu verras que non, une fois que tu l'auras lu, tu vas me dire non, finalement, t'es quelqu'un à peu près comme tout le monde, en fait.
Bah voilà, c'est un beau résumé pour terminer. N'hésitez pas, on m'appelle Casquette Verte, les éditions Flammarion. La date de sortie exacte, c'est quand les gars ?
Le 2 avril.
Le 2 avril, voilà, donc disponible en précommande. D'ailleurs, je crois que ça bat des records de précommande, donc c'est quand même plutôt bon signe.
Ouais, bah, deuxième réimpression alors que le bouquin n'est pas encore sorti, c'est fou.
Ce carton, c'est dingue, tout ça pour une casquette verte, c'est
ouais,
fou.
Grave. Non mais attends, à la base, moi je voulais juste courir un semi-marathon, hein. J'avais pas prévu que tout ça se passe. Que...
Avec un temps minable en plus, c'est fou.
Une 44, 50 secondes.
Rends compte, Yodu, la honte.
Et en plus, tu t'étais mis minable.
Ah ouais, bah, bien sûr.
Bien sûr. Allez, tout de suite, on passe au bon plan matos.
RMC, le bon plan matos.
C'est donc ce livre à gagner, le premier bon plan, le livre de Casquette Verte. On retrouvera partout, Franck, Fnac, tous les revendeurs et tout.
Absolument partout, toutes les librairies.
Également, un livre, on appelle ça comment ? Un livre digital désormais ?
Un livre
dématérialisé.
Oui, en e-book. Et exactement. Et aussi, pardon, en audio-livre bientôt.
Ah, audio-livre, ok. Oh, donc, en train de courir sur les quais de Seine, on peut écouter le livre de Casquette Verte.
Ouais, ouais.
Et j'ai choisi la voix, c'est le mec qui fait la voix de Jude Law.
Genre,
j'ai décidé d'avoir un mec qui est là.
Qui a la classe.
C'est trop bon, ça. C'est de trop choisir long. La voix, c'est incroyable. On choisira qui pour ton livre, Yodu ? Philippe Etchebest, une star du Sud-Ouest.
Ou Louis Moscato.
Moscato, bien sûr. Ouais, j'ai pensé à ça direct.
Bah, arrête, je vais lui dire à Vincent. Je vais lui dire, tu vas lire le livre de Yodu, pas de problème. Magnifique cadeau. Je précise que quand on fait gagner 2 exemplaires à la communauté, ils seront dédicacés.
Je précise que je ne les livre pas en courant, ceux-là.
Non. Ouais, ceux-là, on les enverra par la poste, comme tout le monde. Donc, n'hésitez pas, vous allez sur nos différents réseaux sociaux. On va le faire gagner sur Instagram, ce livre-là. Donc, vous nous suivez, vous mentionnez des amis, et comme ça, vous pourrez participer au tirage au sort. Et puis, on a un deuxième bon plan matos.
RMC, le bon plan matos.
Et une marque qu'on n'a jamais mis à l'honneur pour l'instant dans RMC Running, qui est avec nous cette semaine, la marque Rossignol. Vous la connaissez forcément, une marque qui se lance dans les chaussures de trail. On va en parler avec Guilhem Boussaroc, qui est chef de produit chez Rossignol. Salut Guilhem.
Salut, enchanté.
Bienvenue, merci d'être dans RMC Running. C'est vrai que quand on pense à Rossignol, on pense pas tout de suite à des chaussures de trail, on pense plus à des vêtements de rando, de montagne. Enfin, votre cœur de métier, ça reste la montagne. Il y a toujours un lien avec les montagnes. Hein.
Oui, tout à fait. Ben, Rossignol, c'est une marque plus que centenaire maintenant, puisqu'elle a été fondée en 1907 en Isère, à côté de Grenoble. Et c'est vrai qu'en premier lieu, Rossignol, c'est une marque de ski. On a commencé avec la fabrication de ski en bois. Et puis, on est progressivement devenu la référence mondiale en équipement de sport d'hiver. Mais depuis quelques années, même plus de 50 ans maintenant, on a un centre de recherche et développement spécialisé dans le footwear en Italie, à Montebelluna. Et donc, depuis 10 ans, le groupe commence une diversification, on va dire, vers des produits plus 4 saisons, même si le pilier principal de la marque reste encore les sports d'hiver aujourd'hui.
L'élément central, on l'a compris, donc c'est la montagne. C'est ça la stratégie, la diversification, c'est d'aller aussi sur les produits pour l'été, notamment les chaussures de trail. C'était ça l'enjeu pour vous ?
Ouais, exactement. Aujourd'hui, Rossignol se transforme et en une marque multisaison qui s'adresse à la fois aux passionnés de montagne et aussi aux passionnés de montagne qui vivent dans les villes, mais que ça soit à travers le ski en hiver ou des activités plus estivales comme le VTT depuis plusieurs années, la randonnée depuis quelques années et puis désormais là depuis 2025 le trail running. Donc on adresse notre consommateur tout au long de l'année.
C'est donc le défi que vous vous lancez, la sortie de cette Vezor, la première chaussure de trail running de la marque Rossignol. Est-ce que tu peux nous la présenter, Guilhem ?
Oui, bah alors la Vezor, c'est la première chaussure de trail running haute performance pour Rossignol. Mmh. Elle a été conçue après presque 3 années de recherche et développement dans le centre d'expertise du pied, comme je disais, à Montebelluna en Italie. Et elle a été testée donc voilà, pendant presque 3 ans, dans des conditions vraiment variées, sur plus de 150 testeurs à travers le monde. Et puis, elle a, disons, pour la résumer, 3 caractéristiques principales, même si le secret réside dans la somme des parties, dans l'équilibre de la recette. Ouais. Donc, elle est tout d'abord très stable et dynamique. On a une technologie brevetée à l'intérieur, qui s'appelle le Diapason Plus, qui est une sorte de plaque, non pas en carbone, mais en nylon et en fibre de glace, et en fibre de verre, pardon. Et surtout, cette nouvelle mousse infusée à l'azote qui apporte ce rebond et ce dynamisme dont les coureurs ont besoin sur ce type de distance, de trail notamment, qui vont des courtes aux moyennes distances. Et puis après, au niveau du upper, on y retrouve une tige respirante qu'on a appelée Dragonfly, qui veut dire libellule, tout simplement en anglais, ouais. Et elle est renforcée renforcée et elle s'inspire de cette libellule pour ses changements de direction rapides qui correspondent totalement au mouvement qu'un trail runner a durant sa course. Et le troisième point fort de cette chaussure, c'est qu'on a une semelle avec des crampons assez agressifs et développée en collaboration avec Michelin. Donc voilà, Michelin, leader des pneumatiques, et qui nous a beaucoup aidé sur le développement de cette semelle, notamment sur l'évacuation des déchets pour avoir un grip le plus efficace tout au long de la course.
La clé, elle est là peut-être, la semelle extérieure. Bosser avec une marque comme Michelin, ça doit être hyper intéressant. Et on imagine bien que, vu que Rossignol fait déjà des produits de qualité pour l'hiver, vous ne vouliez pas vous contenter de sortir une chaussure pour sortir une chaussure. Donc vous avez passé combien de temps à travailler sur ce modèle alors ?
Voilà, exactement. Bah, comme tu le dis, notre idéal, c'est d'apporter la même qualité qu'on apporte sur nos champions de ski qui font des podiums en Coupe du Monde, qui font des podiums aux Jeux Olympiques l'hiver avec nos skis. Mmh. On veut apporter le même niveau de qualité sur nos chaussures de trail running. C'est pour ça qu'on lance aussi en cette année 2025 notre team officiel de runners, donc un team professionnel de coureurs de trail au nom de Rossignol, et avec qui on a développé aussi ces produits, avec qui on va continuer de développer des produits. Donc l'idée, vraiment, c'est d'apporter le même niveau de performance entre été et hiver. Et donc, bah, comme je disais précédemment, c'est presque 3 ans de R&D derrière cette chaussure. On a repoussé le lancement d'une année pour avoir un produit encore plus perfectionné. Voilà, c'est 150 testeurs, une team de 8 athlètes pour l'instant qui nous aident à développer ces produits. Et puis, on a surtout ce centre d'expertise à Montebelluna qui conçoit à la fois les chaussures de ski de fond, les chaussures de ski alpin, donc pour tous nos champions olympiques comme Martin Fourcade à l'époque ou Federica Brignone maintenant. Voilà, donc on a ce gros centre d'expertise du pied, et le fit est l'un des points forts de cette chaussure aussi. Elle est hautement personnalisable, on a plusieurs options de lassage. Voilà, c'est aussi un des gros points forts de cette chaussure, c'est qu'elle s'adapte à tous les pieds.
Cette Vaisor, elle s'adresse à tout le monde alors, qu'on soit coureur compète ou coureur récréatif?
Ouais, exactement, cette chaussure, elle s'adresse à tout le monde et dans aussi tous les contextes. On a beaucoup d'employés ici qui la portent au jour le jour parce qu'elle est très confortable aussi à porter au jour le jour. Okay. Donc on va dire que le brief initial était d'avoir une chaussure très performante pour les courses techniques, pour nos athlètes qui vont être sur les meilleures courses de trail au monde. Elle s'adresse à tout le monde, c'est-à-dire qu'elle n'est pas exclusive, elle n'a pas un drop trop faible, elle est vraiment le bon niveau d'amorti, enfin quelque chose de très versatile, même si voilà, le brief initial était d'avoir un produit très performant pour nos athlètes. Et donc elle s'adresse à des coureurs qui sont engagés quand même dans la pratique et qui vont s'aligner sur des distances, nous, qu'on appelle de courte à moyenne, mais nos athlètes professionnels qui sont plus entraînés entraînent même cette chaussure sur l'UTMB par exemple. L'année dernière, on a 2 coureurs qui ont couru l'UTMB avec cette chaussure qui était encore en phase de développement et ça s'est très bien passé. Donc okay. Elle est performante mais très inclusive.
T'as une idée de la durée de vie de la chaussure? Ou c'est difficile à dire, ça dépend de
l'utilisation. Non, on a fait une moyenne. Après, évidemment, je vais dire que ça dépend à la fois du poids du coureur, du terrain sur lequel il court, de sa pronation ou pas, voilà, de son type de foulée. Mais on est entre 500 et 800 km. Donc pour une chaussure, on va dire une super chaussure, une super chose, c'est une durabilité qui est très bonne. Ouais. Et elle vient aussi de la construction de la chaussure qui allie à la fois les super mousses, donc injectées, les super critical foam injectées à l'azote, mais avec aussi un EVA beaucoup plus classique qui vient apporter ce côté durabilité à la chaussure et cette stabilité aussi, puisque ces super mousses sont très molles. Et donc si on n'utilise qu'une seule super mousse dans la chaussure, on va avoir quelque chose d'assez instable. Et là, la combinaison des deux fait qu'on arrive à avoir quelque chose de durable et quelque chose d'assez réactif aussi pour ce genre de course.
Il reste 2 sujets essentiels. Le premier, les coloris. Et le deuxième, c'est le prix aussi. Oui. Quelles couleurs sont proposées alors ?
Alors, on a 3 coloris. Donc, un coloris unisexe qui est Neon Red, qui est la couleur phare de Rossignol depuis des années sur leur ski de compétition, leur ski Hero. Donc, Neon Red et Neon Green. Et on aura ensuite un coloris femme, donc Sand Pink, avec des détails plus féminins. Et un coloris orienté plus pour les hommes, avec un bleu électrique, très sympathique aussi. Et elle sort au prix de 180 €. On sort en fait en cette année 2025 2 modèles, un à 140 et un à 180. Okay. Ce modèle, notre modèle phare, la Vaisor, sort à 180 € et on lance à la fois du textile et aussi une deuxième paire de chaussures plus orientée pour l'entraînement et qui sort à 140 €.
Pour ceux que ça intéresse, on peut acheter ça où? Sur le site de Rossignol? Est-ce que vous avez des revendeurs partenaires?
Oui, elle est disponible donc en premier lieu sur le site officiel de Rossignol et dans nos boutiques, donc la nouvelle boutique de Paris dans le Marais, la boutique de Saint-Germain aussi, notre boutique à Chamonix, mm-hmm. à Lyon. Dans toutes nos boutiques, elle est disponible et elle sera aussi également disponible auprès de certains distributeurs spécialisés et un peu plus généralistes, donc EcoSports, No Leader, Skiset, toute notre distribution ski, elle sera disponible. Et puis surtout dans beaucoup de spécialistes running, comme Terre de Running, Air Running, et quelques multisports triés sur le volet, donc certains intersports et certains sports 2000 okay. spécialistes, on va dire.
Bon, Guillaume, merci beaucoup. Magnifique produit, et d'ailleurs, je te remercie d'autant plus qu'on fait gagner un modèle à la communauté RMC Running. Donc si vous êtes intéressé, si vous êtes trailer, eh bien n'hésitez pas à participer au tirage au sort. Vous allez sur nos différents réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Strava, vous allez également sur TikTok, vous pouvez postuler sur tous les réseaux et nous on effectuera un tirage au sort pour déterminer le gagnant de cette magnifique Vezor, la chaussure trail running de Rossignol. Merci Guillaume, à bientôt dans RMC Running.
Merci à toi.
Et il nous reste à remercier Alex Bouchex, casquette verte, qui était avec nous cette semaine. Alex, on s'est régalé encore avec toi, on n'a pas vu le temps passer. Donc bravo pour ce bel ouvrage. Bravo à Franck Berthaud qui a supporté Alex Bouchex chez lui pendant deux soirées et des soirées. Ça, c'est fort.
Même cette meuf, elle m'en peut plus.
Qui a dû mettre picoler des litres et des litres de bière, quand même.
Ouais, je l'ai pas suivi à tous les coups, sinon il n'y aurait pas eu de livre.
Ah ouais. Et puis, tu nous as choisi la musique que tu écoutes quand tu cours, on ne l'a même pas dit, mais le livre est préfacé par Ben Mazuet.
Ouais, qui est un coureur aussi.
Qui est un coureur aussi.
Ouais, c'est comme ça qu'on s'est connus.
Ultra trailer ou coureur?
Il va le devenir, je bosse le sujet.
Ah, tu commences à travailler. Ok. T'as choisi cette chanson-là, c'est Tony Micheli, c'est ça?
Ouais, Les Gentillettes, Les Gentillettes, c'est son nouvel album. Et en fait, ça fait 4 mois que j'écoute son nouvel album en boucle, en courant. Donc pour moi, ça va avec la course à pied maintenant, Ben Mazuet.
Ok, si vous regardez. Voilà, ça donne ça.
C'était il y a longtemps, c'était il y a tellement longtemps. Je me souciais déjà de ce que pensaient les gens de moi. Et tu sais pourtant, on m'avait plein de fois dit qu'on s'en fout de leur avis. J'avais bien compris, mais j'ai pas réussi.
Et on le salue. Ben Mazuet pour la préface du livre notamment. Merci Alex d'être venu, toujours un plaisir de te recevoir dans RMC Running.
Merci à toi. Donc, il va falloir que je trouve 2-3 aventures, 2-3 off à venir, il y en a, je te rassure.
Ouais, ça, je suis pas inquiet, voilà.
Pour revenir l'année prochaine.
Ouais, ou alors on trouvera un record du monde différent, t'inquiète pas, on va s'occuper de ça. Merci Franck, toi aussi tu reviens quand tu veux.
Merci beaucoup.
Un grand merci au maître Yodu. Continue merci cette belle prépa, tu nous fais rêver. Et toujours ce conseil pour terminer: quand vous courez, souriez, ça aide à respirer. Salut à tous.
Renaud Cabrel ou Goldman, ils ont fait chavirer mon âme. Quand j'étais petit, j'étais heureux.
RMC Running.